Oui, oui.
Le petit oui, oui.
La CHAM, ça veut dire déjà classe à horaire aménagée musique.
Chère Sandra, merci d'avoir eu l'amabilité de m'écrire. Écris-moi à nouveau et dis-moi plus sur toi.
Demande d'asile ne veut pas dire souffrance ou malheur.
L'émission est réalisée dans le cadre de l'atelier de découverte radio le samedi matin, de 10h à 11h30 au centre social d'Arras Ouest. Bienvenue à tous sur PFM au Ch'tiwiwi, notre fréquence 99.9. L'émission est réalisée dans le cadre de l'atelier de découverte radio le samedi matin de 10h à 11h30 au centre social d'Arras Ouest. Nous remercions d'ailleurs le centre de nous passer ses locaux. L'idée étant de créer un magazine radio pour les habitants, nous vous invitons à nous rejoindre et participer à cet atelier. Vous pourrez découvrir les studios, appréhender le côté technique et réaliser des reportages, interviews. Durant cette émission, nous aurons le loisir d'écouter Fran avec la lecture d'une lettre de David Bowie. Bonjour Fran.
Bonjour Christelle.
Mamadou avec une chronique sur les ethnies au Mali. Bonjour Mamadou.
Bonjour Christelle.
Dorine et Héloïse dans leur chronique cinéma.
Bonjour.
Bonjour à vous les filles. Petit aparté, Dorine est en train de nous monter un sujet sur les femmes pendant la guerre. Bon courage à toi. Ensuite, Lou et Jeanne seront interviewées sur les classes CHAM. Bonjour mesdemoiselles.
Bonjour.
Eladj nous fera une lecture d'un de ses poèmes. Bonjour Eladj.
Bonjour Christelle.
Moi-même, je vous ferai une petite chronique musicale. Mais avant toute chose, Eladj a interviewé pour vous Mamadou, migrant demandeur d'asile, malien à Arras. À toi Eladj.
Bienvenue sur PFM. Nous recevons aujourd'hui Mamadou Koulibaly pour nous parler de son parcours de migrant depuis son Mali natal jusqu'en France. Vous avez 35 ans et vous êtes à Arras depuis plus d'un an. Pouvez-vous nous planter le décor de votre vie au Mali avant votre arrivée en France?
Au Mali, j'étais d'abord comme secrétaire général dans une mairie que j'ai travaillé pendant 3 ans. Mais en bref, j'ai fait des études universitaires, j'ai un master 1 en droit des affaires. Et après un mois de chômage, j'ai été recruté à la mairie par le biais de la préfecture comme secrétaire général, dont j'ai travaillé pendant 3 ans et j'étais comme le représentant de l'administration à la mairie. Donc après 3 ans, j'ai travaillé aussi avec une ONG allemande et espagnole. Dans un premier temps, j'étais animateur, mais dans un premier temps, j'étais coordinateur de zone. Donc, j'ai travaillé avec cette ONG de 2006 jusqu'en 2012. Donc, à partir de 2012, mois de mars 2012, mes problèmes ont commencé. Mon oncle, qui était béret rouge à la gare présidentielle, je crois que la France, ou la plupart des Français, en sait quelque chose sur cette histoire. Le Mali a subi un coup d'État le 22 mars 2012. Donc, lors de ce coup d'État, et le président qui était en place, à savoir Amadou Toumani Touré, a été renversé par un coup d'État dirigé par les Bérets Verts. Et mon oncle, qui, leur unité, était chargé de protéger le président de la République, ont lancé un mois après un contre-coup d'État qui n'a pas marché. Et du coup, certains ont disparu et d'autres ont été exécutés. Donc, parmi les disparus, figurait mon oncle. Donc, comme la famille n'a pas eu de nouvelles de lui pendant plus d'un mois, donc j'ai entrepris des démarches pour en savoir comment il est devenu. Donc, j'ai entrepris des démarches auprès des autorités administratives et bien sûr auprès des autorités militaires. Et ces démarches n'ont pas abouti. Et de ce fait, je voulais créer une association. Le nom de l'association, c'était La Voix des Sans Voix. Et que j'avais tenu une première réunion avec certains proches des militaires disparus. La réunion s'est tenue le 18 août 2012. Et à partir du 21 août 2012, j'ai subi des perquisitions. C'était un mardi, un mercredi. Ils ont perquisitionné ma maison, ils ont pris tout ce qu'ils pouvaient prendre. Et du coup, je vivais dans la clandestinité. Donc, je vivais de quartier en quartier et de proche en proche. Donc, jusqu'à ce que y a un commandant de la gendarmerie qui a tenu à parler à ma maman et comme quoi je voudrais parler à votre garçon. Parce que le commandant de la gendarmerie qui m'a contacté durant mon cavale, c'est également l'un des amis de mon oncle disparu. Donc il a parlé à ma maman et je voudrais parler à votre fils parce qu'il est dans une situation un peu inquiétante. Donc la maman avait refusé dans un premier temps, mais il a insisté. Il dit que je parle pour son intérêt et pour l'intérêt de nous tous. Un 21 septembre, et on a pu se parler et il m'a dit ce qui se passe en fait. Parce que lui, c'est un élément de la sécurité d'État. Donc il m'a dit qu'en fait vous êtes recherché parce que lors des perquisitions, nous avons retrouvé des documents chez vous qui attestent que vous avez l'intention de créer une association pour défendre des militaires disparus et du coup vous avez l'intention même de saisir une organisation internationale pour la défense des droits de l'homme. Donc du coup cette initiative peut te nuire à la longue. Donc ce que je vais te demander, il faut essayer de quitter le pays dans un bref délai parce que tu es activement recherché. Donc c'est à partir de là que lui, sous l'anonymat, a entrepris des démarches pour que je puisse quitter le Mali clandestinement.
Pouvez-vous nous raconter votre voyage jusqu'en France et pourquoi avoir choisi la France et pas un autre pays ?
Je n'ai pas choisi la France précisément parce que c'est la France, mais j'ai choisi la France par rapport aux documents que j'avais. Parce que lors de mon cavale, j'ai reçu beaucoup de passeports. Il y avait des passeports du Canada, il y avait des passeports de la Pologne, il y avait des passeports de la Grande-Bretagne. Mais le document dans lequel contenait le visa français, c'était un document un peu fiable. Et du coup, la personne avait un bon profil pour que je puisse passer à l'insu des contrôles de la douane et de la police. Le voyage en tant que tel n'a pas été aussi compliqué parce qu'à Bamako, d'abord, le commandant de la gendarmerie avait contacté certaines personnes, c'est-à-dire les contrôleurs qui s'en chargent de vérifier l'identité des personnes à l'aéroport pour que je puisse passer facilement. Mais au Maroc, les choses était un peu compliqué parce que j'avais le passeport d'un responsable du projet, donc un représentant du projet. Lorsque le policier m'a demandé, dans un premier temps, il dit « Monsieur Koulibaly, apparemment, vous parlez français, vous parlez espagnol, vous parlez anglais, parce que le document que vous avez, normalement, atteste que vous devrez parler ces différentes langues. » Donc, il a commencé à me parler en espagnol. J'ai dit « Monsieur, je viens d'un pays francophone, je souhaiterais qu'on fasse la communication en français. » Il dit non, parce que vous êtes chef de projet et dans votre profil, on suppose que tu devrais être en mesure de parler de ces langues. Bon, du coup, Dieu merci parce que lorsque je travaille avec cette ONG, j'ai fait des formations en espagnol et j'ai été même en Espagne en 2011 pendant 40 jours. Donc, j'ai pu communiquer avec le monsieur en espagnol. Et du coup, il y a un second policier qui est venu. Il dit, ah, vraiment, le monsieur, apparemment, il s'exprime très bien en espagnol. Mais maintenant, moi, je voudrais que tu le testes aussi en anglais. Bon, Dieu merci. Bon, le niveau en anglais, ce n'est pas comme en français, mais je pourrais me débrouiller en anglais aussi. Donc, c'est au Maroc seulement que les choses ont été un peu difficiles. Mais une fois arrivé en France, je n'ai eu aucune difficulté pour passer à la police. Donc, du coup, je suis arrivé à Paris. J'ai été accueilli dans un premier temps par... Et monsieur, lui aussi, il est malien d'origine, mais avec la nationalité française, parce qu'il est venu en France à l'âge de 5 ans. Donc, il est pharmacien français. Quelques jours après, j'ai contacté un organisme qui s'appelle Qualia, et qui est rattaché à la préfecture de Bobigny. Et c'est de là-bas que j'ai fait ma première demande d'asile. Et c'est de là-bas qu'ils m'ont envoyé à Arras.
Justement, comment s'est passé votre accueil à Arras ?
D'abord, à Arras, j'étais accueilli par le CADA, qui, je crois que certains d'entre vous le connaissent. C'est le centre d'accueil pour demandeurs d'asile. Je profite de l'occasion pour expliquer un peu ce centre, parce qu'il y a plein de gens à Arras ici qui ne connaissent pas le CADA. Le CADA, c'est un centre d'accueil pour demandeurs d'asile. Généralement, les CADA en France sont gérés par les associations, parce que là où nous en sommes, c'est géré par une association. Et je vous dis en bref, l'accueil a été vraiment magnifique parce que j'ai été d'abord accueilli à la gare par une assistance qui s'appelle Hélène, qui est ma référente actuellement. Après, elle m'a expliqué les conditions dans lesquelles les résidents se trouvent au CADA et le contrat que je dois signer, et le contrat qui me lie au CADA. Donc, il y a des conditions, il y a des règles à respecter. Et quand tu portes atteinte à certains règlements, tu peux être exclu du CADA. Donc, dès ton arrivée, tu dois signer un certain nombre de documents pour attester que tu as accepté les conditions d'accueil du CADA. Donc, l'accueil vraiment a été, je dirais, magnifique. Et pour le moment, je suis au CADA et je dirais, je suis au CADA sans problème.
Quelle est votre situation actuelle ?
Bon, la situation actuelle comme la plupart des demandeurs d'asile, lorsque tu fais la première demande à la préfecture, tu dois envoyer un récit, c'est-à-dire ton histoire, les raisons qui ont fait que tu as quitté le pays. Donc, si c'est à la suite des perquisitions personnelles ou bien si c'est à la suite d'une situation générale, donc tu dois faire un récit que tu dois envoyer à l'OPFRA. J'ai envoyé d'abord mon récit à l'OPFRA et après 4 mois, j'ai été convoqué à l'OPFRA également. Donc, ça, c'est un organisme de l'État français qui est chargé d'entendre tous les demandeurs d'asile. Et pour qu'ils puissent expliquer les raisons pour lesquelles ils ont quitté leur pays. Donc, j'ai été convoqué à l'OFRA le 15 juillet 2013. Et pendant une année, j'ai attendu ma réponse. Et c'est le 15 juillet 2014 que cette agence m'a envoyé ma réponse avec une réponse négative. Parce que les raisons, ils ont expliqué certaines raisons qui est lieu actuellement au pays. Donc actuellement, j'ai demandé un recours au niveau de la CNDA. Parce que quand tu as un rejet à l'OPFRA, tu as droit à faire un recours à la CNDA. Donc la CNDA, ça c'est la Cour nationale pour les demandeurs d'asile. Donc c'est cette cour-là aussi qui va examiner les éléments que tu vas les proposer. C'est-à-dire si tu as des nouveaux éléments ou bien si... Et la décision de rejet de l'OFRA, si tu n'es pas d'accord, pour les raisons pour lesquelles tu n'es pas d'accord, tu dois mentionner ces différentes raisons et envoyer maintenant un recours avec l'assistance soit d'un avocat privé, mais dans ce cas que le demandeur d'asile doit payer, ou bien l'État va te donner un avocat dans le cadre de l'aide juridictionnelle. Donc j'ai demandé un avocat dans le cadre de l'aide juridictionnelle et j'ai envoyé d'abord ma rédaction et les différents éléments, les différentes preuves que j'avais envoyées également à l'OFRA. Et c'est maintenant l'avocat qui va envoyer le recours à la CNDA. Donc pour le moment, je n'ai pas envoyé le recours. Je suis au stade d'attente par rapport à la convocation de la CNDA.
Quels sont vos projets pour l'avenir?
Bon, en fait, mes projets pour l'avenir, c'est un peu... Au stade actuel, il est un peu difficile d'expliquer comme projet parce que lorsque je suis venu ici, après la demande et après avoir été admis dans un CADA, la première démarche, c'était d'abord de chercher une université. Donc j'ai contacté plusieurs universités. J'étais à l'université de Rennes, j'étais à l'université de Toulouse, j'étais à l'université de Bordeaux et de Paris 5, Paris 6, à peu près une quinzaine d'universités. Et il y avait des questions à poser parce que certaines universités m'ont répondu de façon directement négative. Même à Douai, j'étais à Douai parce que je crois qu'à Arras, il y a une université à Arras ici, mais qui n'est pas, il n'y a pas la filière de droit. Donc j'étais à Douai, j'ai même parlé avec les responsables pédagogiques et ils m'avaient demandé d'envoyer mon document. Mais le seul problème qui me bloque, ça, c'est le statut. Parce que lorsqu'ils ont vu que je suis demandeur d'asile, ils m'ont dit que, bon, vraiment, avec demandeur d'asile, c'est pas évident de faire les études supérieures. Bon, et j'ai été accepté à Toulouse. Et même la responsable pédagogique m'avait envoyé la fiche d'inscription. Mais lorsque j'ai envoyé la fiche d'inscription, ça s'est coïncidé également avec le rejet de l'OFRA. Et du coup, les choses se sont bloquées, quoi. Donc... Je suis à la recherche des universités, mais personnellement, là où je suis, je souhaiterais faire mes études en droit humanitaire. Bon, je suis juriste d'affaires de formation, mais je souhaiterais changer un peu la filière pour faire action humanitaire et action durable. Donc ça, c'est une filière aussi qui concerne généralement les organisations et humanitaires. Et ça peut être le ICR, ça peut être la Croix-Rouge, ça peut être... Bon, il y a plein d'organismes qui sont activés dans ces domaines. Donc je souhaiterais dans l'avenir travailler avec des organisations humanitaires parce que ce qui m'a fait changer un peu ma carrière, c'est lorsque j'ai été arrivé en France ici, les conditions dans lesquelles j'ai été accueilli, j'ai vu des organisations et des associations ici qui sont vraiment activées dans ces domaines. Donc ça, c'est des trucs qui m'ont vraiment beaucoup touché. Donc je me suis dit que pourquoi ne pas aussi faire des études dans ces domaines, au moins dans l'avenir, aider aussi d'autres personnes qui seront dans le besoin. Donc c'est ce qui m'a poussé à changer un peu mon domaine. Je suis en contact avec... un institut à Paris qui s'appelle Institut Bettencourt, qui forme les gens en Master 2 ou en Master 1 dans l'action humanitaire et action durable. Mais du coup aussi, ça c'est un problème financier qui bloque un peu les choses.
Quel est votre regard sur la situation actuelle au Mali ?
Bon, en fait, le regard actuel sur le Mali, mais souvent, moi, je n'ai pas envie de parler parce que chaque fois quand j'aborde ce sujet, j'ai du mal à me retenir parce que, vous m'excusez, parce que moi, j'étais au Mali, je ne dirais pas que j'étais bien, mais au moins, si j'étais avec la famille, je travaillais, j'avais une vie tranquille. C'est à la suite de ces événements que ma vie a bouleversé. Et bien sûr, la vie de la famille. Bon, c'est une situation difficile à gérer, à digérer. Mais moi, pour le moment, je souhaiterais rester ici. Voir ce qui va se passer parce que ils ont toujours dit que les choses commencent à partir, que la situation se régularise. Mais personnellement, ce que j'ai vécu, je ne pourrais pas oublier. Parce que ils ont bouleversé totalement ma famille. Mon père est décédé depuis que j'étais à l'université. Donc j'avais un seul oncle qui jouait le rôle de père. Et celui qui était le tout pour moi, qui me conseillait ce que je dois faire. Et Dieu merci, grâce à ses conseils, j'avais commencé à rebondir au pays. Mais les gens mal intentionnés ont voulu aussi que ma vie soit ainsi. Donc la situation actuelle au Mali... Ce que vous entendez à la radio et ce que vous entendez à la télé, il y a une part de vérité, mais la situation est plus que compliquée. Les gens qui suivent régulièrement les informations en savent quelque chose. Par exemple, au nord, ça c'est un problème de terrorisme. Au sud, ça c'est un problème politique. Donc du coup, la situation elle est incertaine. Par rapport à votre question, je ne peux pas dire concrètement ce qui se passe au Mali actuellement, parce qu'elle est vraiment incertaine.
Avez-vous un message à faire passer ?
Le message que je souhaiterais passer, il est tout simple. J'adresse ce message d'abord aux auditeurs, et d'abord à tout Horace, mais particulièrement aux auditeurs qui nous écoutent. Parce qu'il y a plusieurs personnes qui n'ont pas peut-être un bon regard ou bien une bonne philosophie sur les demandeurs d'asile. Il y a plein de gens qui pensent que si on entend seulement demandeurs d'asile, c'est la souffrance. Effectivement, c'est la souffrance. Et d'autres pensent que la plupart des demandeurs d'asile sont des migrants économiques. Je dirais que tous les demandeurs d'asile ne sont pas des migrants économiques. Il y a des demandeurs d'asile qui ont quitté le pays parce qu'ils étaient obligés de quitter. Même par contre, il y a d'autres qui, d'une raison ou d'une autre, ont souhaité de quitter volontairement. Mais je tiens à préciser qu'il y a, il y a des demandeurs d'asile qui... Ils sont obligés parce que c'était une question de vie ou de mort. Donc l'appel que je lance aux auditeurs et à tout Ara, c'est que nous, en tant que demandeurs d'asile, nous souhaiterons mener une vie vraiment paisible et que les gens évitent de faire un amalgame entre des migrants ou bien entre des gens qui n'ont rien à voir avec eux. La demande d'asile ou bien ils ont des projets particuliers. Avec ces projets particuliers, ils essayent de compromettre l'avenir de tout un groupe. Ça, c'est des précisions qu'on doit apporter. Et demande d'asile ne veut pas dire souffrance ou malheur. Demande d'asile, nous avons des droits, nous avons aussi des obligations. Et ça, c'est le seul appel que je voudrais lancer à nos auditeurs.
Nous avions devant nous au micro Mamadou Koulibaly, demandeur d'asile à Arras qui nous vient tout droit du Mali en Afrique de l'Ouest. Et maintenant on va parler de musique avec Christelle qui va nous enchanter avec sa chronique musicale Charlie Winston.
Merci Eladj. Suite à ce voyage, ce parcours de vie et avant de poursuivre, je vous propose d'écouter deux titres de Charlie Winston que j'ai sélectionnés. Donc c'est des extraits de son premier album, Like a Hobo. Un hobo étant un sans-domicile fixe se déplaçant de ville en ville. 2009 déjà. Alors pourquoi Charlie Winston ? Sûrement pour son côté soulman, originaire de Cornouaille, d'une famille de musiciens. C'est quelqu'un plein d'énergie, un peu excentrique, multiple. Déjà à l'âge de 8 ans, il chantait le blues. Merci en tout cas à Peter Gabriel qui nous a fait découvrir ce talent en le choisissant pour faire la première partie de sa tournée européenne. En 2011, il nous offrait un second album, Running Still. Le prochain Curiosity sera plus électronique. Sa sortie est prévue le 26 janvier 2015. Pourquoi ce titre si ce n'est pour son sens ? car il s'agit d'un homme qui part loin de sa famille pour travailler afin d'envoyer de l'argent à ses parents, d'un homme dont l'employeur peine à verser son salaire. Sur ce titre, une dernière chose, Charlie Winston lui-même interprète ce morceau dans la comédie sentimentale de Benoît Philippon, Lui l'habi, pour les amateurs de jazz et de comédie musicale. Et tout de suite, Charlie Winston, In Your Hands. Un autre morceau de cet interprète, pioché dans le même album, Boxes. Là, il s'agit davantage de nous et de nos rêves d'enfants à l'épreuve du temps, de la vie. Car quand on a grandi, le monde nous semble bien différent, avec des compartiments, des étages, des murs. Et pourtant, on a toujours envie de rêver. Prenons donc cette liberté et terminons ainsi cette chronique musicale pour aujourd'hui. Merci à vous et restez avec le Ch'ti Oui Oui sur PFM.
As a child with ocean eyes, I smiled at a world existing just for me. Without boxes, borders, or boundaries, I built dreams. But like plastic, plastic building blocks. They were knocked down to the ground. I grew up to a world of compromise, analyzing what it means to dream. I don't really wanna understand everything in my world. It spoils the fun for me. Come on, darling, you can take my hand. Blowing kisses in the wind will fly away in our dreams from the boxes. I could make a thousand me's. I don't really want to understand everything in my world. It spoils the fun for me. Come on, darling, you can take my hand. Blowing kisses in the wind will fly away in our dreams from the boxes.
Nous avons la chance d'avoir un poète dans l'émission. Il s'agit d'Elhadj Ba qui nous déclame l'une de ses compositions.
À ma conscience, je ne suis pas une ordure, mais les politiques m'en ont forgé une. Je n'ai jamais été solitaire, mais là je me retrouve erre. Bourbe, d'esprit fanatique, rien dans leur tête. Ils nous harcèlent, nous arrêtent et nous tuent. Hélas, ma conscience me guide. Je ne suis pas un enfant à abandonner, non plus eu d'enfant à abandonner. Sous mes ailes, la chaleur a me protégé. Les politiques sont fanatiques. Ils nous languissent de leurs beaux discours et nous tyrannisent en sourdine. Des promesses, oui. Du concret, non. Ils sont les bottes alléchées du peuple martyr qui disparaissent par compétence et cible. Que seuls les bénis oui rôdent. Les politiques sont fanatiques. Ils volent, pillent, assassinent et exilent. Des innocents sacrifiés, la jeunesse bafouée. Les politiques sont fanatiques. Et ma conscience me le dit. Et là, je dis, l'Afrique doit se réveiller et le sort est médité.
Nous remercions Elhadj de pouvoir nous présenter cette poésie chaleureuse. Je passerai la parole à Fran pour la lettre de Bowie pour ses premières fans.
Le 25 septembre 1967. Chère Sandra, peu avant que j'appelle le bureau de mon manager, je tenais ma première lettre d'un fan américain, et elle était de toi. J'étais si touchée que j'ai dû m'asseoir et répondre immédiatement, même si Ken me somme de me lever et de lui passer un texte dont il a absolument besoin. Cela peut attendre. J'attendais quelques réactions de la part des auditeurs américains au sujet de l'album. Il y a eu des critiques dans Billboard et Cashbox, mais elles étaient signées par des professionnels et leurs critiques sont rarement révélatrices de l'opinion publique. Les critiques étaient élogieuses pourtant. Ils ont même aimé le single « Love You Till Tuesday ». J'ai une copie de l'album américain et ils ont imprimé une jaquette un peu jaune. Vraiment, je ne suis pas si blond. Je pense que la photo de dos me correspond plus. J'espère que tu aimes celles qui sont à l'intérieur. Pour répondre à tes questions, mon vrai nom est David Jones et je n'ai pas à t'expliquer pourquoi je l'ai changé. Personne ne va se payer ta tête, a dit mon manager. Mon anniversaire est le 8 janvier et je crois que je mesure 1m78. Il existe un fan club ici en Angleterre, mais si tout va bien, il y en aura un aux États-Unis, je suppose. C'est un peu trop tôt pour y penser. J'espère qu'un jour j'irai aux États-Unis. Mon manager m'en a beaucoup parlé. Il y est allé plusieurs fois avec d'autres personnes qu'il représente. L'autre soir, je regardais un vieux film intitulé « Les Sensuels ». Un super film, mais plutôt déprimant, si c'est une réelle peinture de l'American Way of Life. Mais juste après, ils ont diffusé un documentaire sur Robert Frost, le poète américain, surtout filmé dans sa maison du Vermont, et ça a sauvé la soirée. Je suis sûre que c'était plus proche de la vraie vie à l'américaine. J'ai fait mon premier film cette semaine, ça ne dure que 15 minutes. Mais c'était une bonne expérience pour préparer un long métrage où je dois jouer en janvier. Merci d'avoir eu l'amabilité de m'écrire. Écris-moi à nouveau et dis-moi plus sur toi. Ton dévoué David Bowie.
It's a god-awful small affair to the girl with the mousy hair. But her mommy is yelling no, and her daddy has told her to go. But her friend is nowhere to be seen. Now she walks through her sunken dream to the seat with the clearest view, and she's hooked to the silver screen. But the film is a sad thing for she's lived it 10 times or more. She could spit in the eyes of fools as they ask her to focus on sailors fighting in the dance hall. Take a look at the low man beating up the wrong guy. Oh man, wonder if you'll ever know who's in the best-selling show. Is there life on Mars? Tortured brow that Mickey Mouse has grown up a cow. And now the workers have struck for fame, 'cause Lennon's on sale again. See the mice in their million hordes, from Ibiza to the Norfolk Broads. Rule Britannia is out of bounds to my mother, my dog and clown. But the film is a sad thing for, 'cause I wrote it 10 times or more. It's about to be written again as I ask you to focus on sailors fighting in the dance hall. Oh man, look at those cavemen go. It's the freakiest show. Take a look at the law.
À présent, Lou et Jeanne vont être interviewés sur la classe CHAM.
Qu'est-ce que la CHAM ?
La CHAM, ça veut dire déjà classe à horaire aménagée musique. Et ça sert à intégrer des heures de musique dans les cours scolaires. Et ça doit être un niveau un peu plus au-dessus que les traditionnels.
Où est-ce que cela se passe ?
Pour l'instrument, ça se passe à rue Béfara.
C'est toi ?
Et pour le solfège, pour l'instant, cette année, on étudie au Palais Saint-Va, mais l'année prochaine, instruments et solfège seront réunis à Saint-Pierre, l'hospice Saint-Pierre.
Quelles sont les différences entre la CHAM et l'apprentissage traditionnel ?
La CHAM, comme je viens de le dire tout à l'heure, ça se passe dans les horaires de cours. On peut dire que c'est à peu près la même chose, à part les horaires, mais ça doit être un peu plus développé. Par exemple, moi, c'est le mercredi à 15h, mais on peut avoir les mêmes profs. Moi, j'ai Monsieur Philippot et Jeanne à la...
Madame Poyon. Je trouve qu'on, quand même, quand on est en CHAM, on fait plus de projets, de spectacles, parce qu'on est privilégié, comme on a un niveau quand même au-dessus, pour moi.
C'est pas faux.
Quelles sont les conditions d'admission ?
Pour l'admission, quand on est... En primaire, on rentre en CE1. Et puis, on peut rentrer aussi quand on est en 6e, mais c'est plus dur de rentrer en cours de collège, en fait, parce qu'il y a plus de... faut pas avoir de difficultés en solfège, par exemple, parce que sinon, on a beaucoup de mal à être admis.
Combien d'heures ça vous prend dans la semaine ?
Le mardi, il y a 1 heure de chorale et 30 minutes d'instruments. Et le vendredi, 1h30 de solfège.
Combien ça vous coûte la CHAM ?
100€ par trimestre pour les arrangements.
Que devient-on après la CHAM ?
Après la CHAM, on a possibilité de passer un concours pour devenir professeur, en fait. Donc soit on continue, on devient professeur, soit on arrête et la CHAM et on continue si on a envie, mais il y a quand même très peu de personnes qui continuent pour devenir professeur après la CHAM. Mais aussi, quand on fait CHAM, on est obligé de faire une année de plus que les traditionnels, comme on a des cours... normalement, quand on est traditionnel, on arrête... Si on a bien commencé en CE1, on s'arrête en 4e, mais quand on est CHAM, on s'arrête en 3e, parce qu'on est obligé, puisque les cours normaux se finissent en 3e.
Est-ce un lieu de professionnalisation ?
Si on veut devenir instrumentiste, c'est des avantages, puisqu'on a passé à peu près toute notre scolarité à faire solfège, à être à un plus grand niveau que les traditionnels. Donc je pense que oui, on peut se tourner vers la musique.
Qu'est-ce que vous en pensez ?
Pour moi, je préfère faire CHAM plutôt que traditionnel, puisque le mercredi, enfin les heures de cours traditionnelles, comme ça on peut faire autre chose, et puis on fait plus de choses quand on est en CHAM que quand on est en traditionnel. On fait plus de projets, donc moi je préfère.
Personnellement, je trouve que je voudrais pas avoir des cours pendant les heures scolaires. Mais c'est vrai que les projets, ça doit être sympa. Mais bon, voilà.
C'est vrai qu'il y a plus de travail quand on est en CHAM que quand on est traditionnel.
Le ch'ti boui boui.
Un petit pas de trois et nous voilà au 7e art. Pour la chronique des demoiselles et néanmoins sœurs Héloïse et Dorine du ch'ti pays d'Artois.
Bonjour.
Salut.
Moi c'est Héloïse.
Moi Dorine.
Et nous allons vous présenter une petite critique ciné. Lequel te dit Dorine ?
J'aime bien le Teletubbies.
Non, sérieusement.
Le labyrinthe est plutôt intéressant et au cinéma en ce moment.
Alors je sais que ce film a été réalisé par Wes Ball. C'est une science-fiction américaine sortie en 2014. C'est une adaptation d'une saga écrite par James Dashner. Là, il s'agit d'une adaptation du premier tome et il y en a trois.
C'est l'histoire d'un adolescent qui se réveille amnésique dans un endroit étrange entouré de 4 immenses murs. Le lieu est peuplé par une 50aine de garçons qui vivent grâce à leur organisation et à l'aide de ceux qui les y ont envoyés, les créateurs. Mais le plus étrange, c'est qu'au-delà des murs, une porte s'ouvre sur un labyrinthe qui se referme toutes les nuits et abrite d'étranges monstres.
À l'arrivée de ce jeune garçon, joué par le pétillant Dylan O'Brien, la routine de tous les garçons prend une nouvelle tournure.
Stop ! Ne gâche pas tout le suspense.
Tu as raison, en tout cas, ayant vu ce film, je vous le conseille fortement. Un air de Hunger Games, pour les amateurs du genre.
Sur ce, bye bye.
Merci aussi à Nico, Antoine, Bernard pour leur participation, leur aide, nos techniciens PFM et animateurs.
Merci.
Inouali.